Et c'est une nouvelle semaine que nous allons partager tous ensemble dans un univers que vous allez peut-être découvrir, celui de l'héliciculture. Nous allons parler d'escargots tout au long de cette semaine avec les escargots de Jade. Nous sommes ici installés à Bersac-sur-Rivalier, en Haute-Vienne. Et avec nous, Jade Oliveira da Silva, qui est donc hélicicultrice. On va découvrir ce métier, cet univers des escargots tout au long de cette semaine ensemble. D'abord, un petit mot peut-être de ce site.
Alors donc, on est installé sur Bersac depuis 2005. D'abord, une partie privée où on souhaitait s'installer et vivre ici. Et donc l'élevage, lui, est lancé depuis juin 2014.
Alors ça représente une superficie importante. On va la découvrir évidemment dans le courant de la semaine.
Donc l'élevage représente 800 mètres carrés.
Et ça fait combien de têtes tout ça? C'est pour pas parler de cornes.
Environ 200 000.
Quand même. Donc ça fait du monde à visiter. On va aller leur faire un petit bonjour évidemment dans le courant de la semaine. Ce métier d'hélicicultrice, comment ça vous est venu? D'où est venu le déclic?
Le déclic vraiment, c'est l'envie de travailler avec la nature, envie d'être dans la nature et de travailler avec elle. Donc depuis longtemps, je cherchais une idée pour produire quelque chose sur une ferme. Et voilà, l'escargot m'a bien plu parce que je peux suivre ce produit de A à Z en l'élevant, en le cuisinant et après en le vendant sur les marchés.
Comment l'escargot traverse l'esprit à un moment donné ?
Eh bien, c'est le manque de place qui m'a un peu aiguillé. J'avais juste un hectare de terrain. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur un hectare? Plein de possibilités, du maraîchage, éventuellement des abeilles, des plantes sauvages et l'escargot. Donc, on revenait à cet escargot que j'aime déjà beaucoup manger aussi. Donc, ça recoupait beaucoup de choses.
Et le souhait du calme aussi. On vit à la campagne. Au moins, avec les escargots, on n'est pas embêté.
Voilà, pour la pointe d'humour, ils ne courent pas très vite, ils ne font pas de bruit, ils ne sentent pas mauvais.
Pas un chien de berger pour les gérer, tout va bien.
Voilà, c'est ça. Oh, quoique, un chien pourrait être utile.
On va essayer d'explorer la question. Alors, c'est vrai que quand on parle d'escargot, on pense Bourgogne assez facilement. Le Limousin, c'est une terre pour l'héliciculture ?
Oui, ça s'y prête très bien, oui. Aucun souci. Alors l'escargot de Bourgogne, lui, va préférer des terrains un peu plus calcaires. Donc on en retrouve un peu dans le Limousin, mais vraiment sur des îlots bien spécifiques. Et nous, on va retrouver à l'état naturel le petit gris, plus facilement.
Alors ça veut dire que c'est aussi un climat favorable, on va rien cacher, on enregistre en semaine absolument détestable en ce moment. Le seul à être content, c'est l'escargot finalement.
Oui, encore.
C'est un peu trop même pour lui.
Oui, je rappelle que l'escargot ne sait pas nager et là, voilà, il faut des bouées de sauvetage quand même, pour les escargots aussi.
Donc, mais ça veut dire que d'une manière générale, il lui faut quand même un climat assez tempéré comme nous, ni jamais trop chaud, ni jamais trop froid, ni jamais trop humide.
Oui, c'est parfaitement résumé. Ce qu'il ne va pas aimer, ça va être les vents. Donc là aussi, on est dans une région qui est plutôt clémente là-dessus.
Et ça veut dire qu'il y a plusieurs sites d'héliciculture en ne serait-ce qu'en Haute-Vienne, par exemple ?
En Haute-Vienne, oui, nous sommes trois.
Donc ça veut dire qu'on se connaît rapidement parce qu'on est, oui. Voilà, on est sur un secteur très particulier.
Oui, même à travers toute la France, on est environ 300, donc oui, on se connaît tous, donc. On a plaisir à pouvoir échanger sur nos professions.
Ça veut dire avec des différences, ne serait-ce que pour les espèces d'escargots par exemple, aux quatre coins de la France, on ne travaille pas forcément les mêmes produits non plus, avec des spécificités à chaque fois ?
Oui, tout à fait, oui, des spécificités sur les races, sur la cuisine, parce que les goûts vont être différents suivant les régions. Et puis des saisons qui vont commencer plus ou moins tôt, suivant si on est dans le sud ou dans le nord de la France.
Et puis alors justement, la place de l'escargot dans la culture culinaire, on va dire, des Français et des Limousins, elle a encore une bonne place ?
Oui, les Français sont les plus gros consommateurs du monde d'escargot, et les Limousins sont de bons mangeurs, donc oui, là, on a toute notre place.
Votre difficulté, c'est quand il y a des touristes qui viennent ici, des touristes britanniques par exemple, de leur faire sauter le pas ?
Non, croyez pas ça, j'ai de très bons clients anglais. Hein. Vraiment, ils savent aussi apprécier les bonnes choses, donc il n'y a pas de raison. Alors, il y en a, hein, mais on trouve aussi des Français qui sont répugnés par cet animal. Donc, on ne fera rien sur les anglo-saxons.
Et puis, quand c'est bien cuisiné, ça passe tout seul.
Exactement.
On aura l'occasion de s'en rendre compte, évidemment, en fin de semaine. Pour l'instant, on va nous profiter pour passer le portail et se rapprocher de cet élevage. Et on continuera d'évoquer ce sujet de l'escargot tout au long de la semaine, bien sûr. Et c'est notre deuxième rendez-vous cette semaine à la découverte de l'héliciculture. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas été là hier, l'héliciculture, c'est l'élevage des escargots. Nous sommes à Bersac-sur-Rivalier, installé au Moulin de Gérald, précisément, au cœur des escargots de Jade. Jade Oliveira da Silva qui est avec nous, hélicicultrice. On va découvrir concrètement l'élevage ici des escargots de Jade dans notre prochain rendez-vous. Mais d'abord, peut-être qu'on va pouvoir s'arrêter sur l'escargot en lui-même, parce que ça nous paraît extrêmement familier, et finalement je suis pas sûr qu'on connaisse grand chose finalement de cette petite bête.
Oui, il y a de nombreuses races d'escargots. Alors dans ce qu'on consomme, on va en repérer trois principalement, donc le petit gris, le gros gris et le bourgogne. Bien sûr, dans d'autres pays, on va manger d'autres races, mais en France, ça va être les trois là qu'on retrouve.
Alors, on peut faire une parenthèse, parce qu'on parle escargot de Bourgogne, et je crois qu'effectivement, quand on parle aux gens d'escargot, on a tout de suite ce réflexe, escargot égale Bourgogne, et pourtant,
il n'a rien de bourguignon. Donc l'escargot de Bourgogne, c'est une appellation, c'est comme la vache limousine, on peut comprendre qu'il n'est pas forcément élevé en Bourgogne, mais plus loin dans la réflexion, l'escargot de Bourgogne ne s'élève pas. On a fait des essais il y a de nombreuses années, on n'arrive pas à le maîtriser en élevage, donc on a abandonné. Et il faut savoir qu'on en trouve dans les grandes surfaces de l'escargot de Bourgogne et que celui-ci est gentiment ramassé à l'état sauvage dans les pays de l'Est et pourrait être ensuite vendu dans nos grandes surfaces.
Quand on surveille un peu les étiquettes, on se rend peut-être rapidement compte qu'on n'est pas en train de manger très local.
Oui, il faut bien les décortiquer les étiquettes quand même.
On est au fond de la coquille pour voir ce qui s'y cache. Alors, différentes espèces, en ce qui vous concerne, on ira sur l'élevage demain. C'est quelle espèce qu'on va pouvoir découvrir ici?
Donc c'est l'Helix aspersa, le gros gris.
Le gros gris, voilà, je vais rester sur cette formulation, je préfère. Qu'est-ce qui les distingue, les différencie? La taille uniquement?
Oui, exactement, c'est la taille. Le gros gris vient de la souche naturelle du petit gris. C'est juste une amélioration pour se rapprocher d'une grosseur d'un bourgogne, mais avec une chair aussi tendre que celle du petit gris.
C'est-à-dire qu'on n'en fait pas forcément la même chose après en termes de transformation?
Oh si, si, on peut le cuisiner pareil.
Ça, il en faut juste plus.
Voilà.
Alors après, est-ce qu'il y a un rythme de vie particulier? Alors, on a tous évidemment le côté lenteur de l'escargot, mais est-ce que c'est un animal qui vit plutôt la nuit?
Oui, donc c'est essentiellement nocturne, bien que par un temps comme aujourd'hui où il fait gris et pluvieux, il va apprécier sortir.
Voilà, nous on reste enfermés, lui il préfère sortir.
Mais quand il y a du soleil, il reste caché, il va sortir la nuit, et donc il hiverne, donc quand il fait froid, on n'a pas d'escargot dans la nature.
Justement, dans la nature, est-ce que c'est une espèce à protéger?
Les races d'escargots sont protégées depuis 1979 en France. Le ramassage est très réglementé. Elle se fait pendant certaines périodes de l'année et sur des petits prélèvements, toujours pour sa consommation personnelle.
Ça veut dire qu'il y a des contrôles pour vous, par exemple, en tant qu'éleveur, vous avez des contrôles, des suivis, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi?
Ah bien sûr, oui. En aucun cas, je peux prélever dans la nature, moi, pour en faire de l'élevage. Donc, ce sont des escargots qui sont issus d'élevage, reproduits en élevage, pour être engraissé et transformé.
Alors on parlera effectivement demain de tout ce système, de cette chaîne de l'élevage jusqu'à la récolte. Je disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est extrêmement familier pour tout le monde quand on se balade, ne serait-ce que dans nos jardins, on voit des escargots un petit peu partout, et notamment quand il fait effectivement un temps comme aujourd'hui. Est-ce que c'est finalement presque banal et devenu presque invisible à l'œil des concitoyens?
Alors on mange de l'escargot depuis la préhistoire en France, hein, quand même. Mmh. Donc effectivement, il a toujours été présent parmi nous, c'était le plat du pauvre à l'époque, parce que ça faisait une viande qu'on pouvait ramasser assez pas cher. Et puis je crois que les enfants adorent aussi ce petit animal qui est si curieux, enfin il nous fascine quelque part, donc oui, il est là autour de nous, discret et toujours présent pourtant.
Alors aujourd'hui c'est pas le plat du pauvre, on a presque l'impression que c'est l'inverse, hein. Ouais. C'est un plat de fête, c'est un plat de luxe, ça veut dire qu'on a un autre regard sur l'escargot. Est-ce qu'on s'y intéresse un petit peu plus aujourd'hui qu'il y a quelques années?
Je pense, oui, de plus en plus, oui, ça va être aussi un repère au niveau de la nature. Il y en a eu de moins en moins, donc ils ont été protégés, ils sont surveillés. Oui, ça évolue.
On a quelques pas qui nous séparent de l'élevage. Le temps est en train de s'améliorer. C'est extraordinaire. Donc je pense qu'on va arriver sur place. Ils seront nombreux à nous accueillir puisque la pluie est en train de nous rejoindre. On se retrouve nous demain pour continuer de découvrir cet univers des escargots en tout cas. Et notre troisième rendez-vous cette semaine à la découverte de l'héliciculture. Je rappelle que nous sommes installés à Bersac-sur-Rivalier. Nous sommes au cœur des escargots de jade, en présence de Jade Oliveira da Silva, qui est hélicicultrice ici. On va concrètement, Jade, maintenant parler du processus finalement de l'élevage jusqu'à, je vais dire ça tout doucement parce qu'on est à côté d'eux, mais de nos conserves et de nos assiettes, parce que c'est un gros travail. On l'a dit, il y a 200 000 escargots ici qui sont répartis sur plusieurs parcs.
Oui, donc là sur 4 parcs, sachant que d'année en année j'agrandis. Là, je pense être arrivé au maximum avec mes 800 mètres carrés.
Là, par exemple, on est à proximité donc du premier parc. C'est un parc un peu particulier. Ce sont pas les perdreaux de l'année.
Oui, voilà, ce sont les petits de l'an passé qui n'étaient pas assez gros pour être cuisinés, que j'ai fait hiverner tout l'hiver dans la grange et que je me suis dépêché de sortir au printemps.
Alors, comment ça fonctionne? Là, on explique pour nos amis qui n'ont effectivement pas l'image. On a une planche transversale qui est surélevée avec des petits piquets, et contre cette planche, de chaque côté, d'autres petites planchettes qui sont inclinées sur lesquelles se trouvent les escargots. Pourquoi ce mode de fonctionnement?
Donc ces planches en bois qui vont servir de cachette à l'escargot la journée, et puis la nuit il va sortir, il va grimper dessus, il va aller s'alimenter. Donc la planche qui est parallèle au sol va servir de mangeoire, c'est là où je distribue mon aliment tous les soirs, et puis où il va se cacher dessous en journée.
Alors qu'est-ce qu'on lui met dessus? Parce que là, effectivement, avec le temps magnifique d'aujourd'hui, on ne voit plus grand-chose. On a l'impression d'un peu de sable. Qu'est-ce que mange l'escargot?
Donc l'escargot mange des céréales. Donc il a un mélange qui a été spécialement étudié pour lui. Donc ce sont du blé, du maïs, du lupin, du soja, qui sont très finement mixés, broyés, pour qu'il puisse l'ingérer facilement.
Alors, il y a quelques escargots qui tentent le prize and break. Hein, je vois qu'ils sont sur les filets pour tenter de s'échapper. On a un peu de perte. Ça, c'est des choses qui sont un peu inévitables.
Oui, c'est inévitable. J'essaye de pallier à ça avec une clôture électrique, donc qui est fixée en haut d'un petit filet brise-vent. Donc logiquement, quand il arrive sur cette clôture, il va retourner dans sa coquille et tomber au sol. Mais certains jours d'orage où il y a beaucoup d'humidité ambiante, le courant n'est pas assez puissant et ils arrivent à passer.
Voilà. On a prévenu, en tout cas, ceux qui sont en train de grimper, vous allez prendre une petite châtaigne, je serai vous, je redescendrai tout de suite. Le filet qui évidemment entoure l'intégralité du parc, c'est aussi pourquoi? Pour le protéger d'autres espèces, les oiseaux par exemple, il y a un risque vis-à-vis des escargots?
Ouais. Bien joué. Effectivement, j'ai un filet anti-oiseaux pour protéger des merles, des pies qui sont très coquines et qui adorent l'escargot.
Concrètement, on va peut-être aussi préciser d'où viennent ces escargots. On l'a dit, hein, vous n'avez pas le droit de les prélever dans la nature, donc ça veut dire qu'il faut vous fournir. Ça se passe comment?
Oui, voilà. Donc il y a certains éleveurs qui sont spécifiés dans la reproduction d'escargots. Donc moi, mon fournisseur se trouve dans la Drôme parce qu'il est certifié agriculture biologique comme l'est mon élevage. Donc je vais chercher mes bébés tous les ans après les seins de glace du mois de mai. Donc mes petits bébés qui ont 2 jours, qui font 3 millièmes de grammes et que je vais pouvoir remettre dans mes parcs pour les engraisser. Donc là, lundi, je dois aller chercher 125 000 escargots.
Vous n'allez pas vous ennuyer. Alors là, on est à côté d'un parc qui est désert. C'est justement le lieu d'accueil des futurs pensionnaires.
Alors celui-ci est visiblement désert, mais en fait, il est habité par 40 000 bébés escargots.
Ah, qui sont effectivement plus discrets donc que leurs petits voisins.
Ouais. On les aperçoit un petit peu sur les planches.
Ah oui, donc effectivement.
Ils sont tout petits.
C'est-à-dire que là, quand vous allez mettre des bébés dans un parc comme ça, c'est une manipulation extrêmement compliquée.
C'est très délicat, ils sont très fragiles et je vous avoue que pendant au moins 2 semaines, j'évite de rentrer dans le parc pour pas avoir de risque de les écraser.
Parce que ça grossit à quelle vitesse?
Mi-mai, je mets mes bébés et sur le mois d'octobre, je vais les ramasser. Ils vont avoir la taille adulte, donc en 5 mois, on a un escargot qui passe de 3 millièmes de gramme à environ 20 grammes.
Ah oui, mais c'est vrai que là, je vais me rapprocher parce que j'ai quand même une bonne vue, pour dire, mais... Ah oui, effectivement, faut quand même avoir de très très bonnes vues. Alors surtout qu'en plus, voilà, on a parlé des planchettes de bois, mais il y a de la végétation tout autour, donc ça veut dire que bah ils sont peut-être là aussi au milieu de ces herbes là. Et là, les filets sont suffisamment efficaces.
C'est délicat à cet âge-là. C'est très délicat. Là, par exemple, on voit un petit bébé escargot qui s'est enfui, qui est passé de l'autre côté du filet. Sa petite taille lui permet de se faufiler un peu partout.
Ça veut dire qu'on a un ordre d'idée de la perte que l'on peut avoir sur le chiffre de départ?
On va tourner, enfin 30% c'est bien, mais on peut très vite passer à 50% avec des choses comme une averse de grêle, une arrivée de rat qui vient manger et qui fait un carnage dans le parc.
Mais c'est compliqué de se rendre compte là, effectivement, si un rat est passé, on s'en rend compte finalement une fois à la taille adulte au mois d'octobre.
C'est ça, voilà, c'est le grand stress de nous éleveurs. On ne sait pas combien ils sont tout au long de la saison, on ne peut pas se permettre de les compter tous les jours. Ils ne répondent pas à l'appel, donc on est obligé d'attendre.
On peut pas les badger, on peut rien faire.
On est obligé d'attendre de les ramasser pour savoir combien ils sont et quelle a été la perte de l'année.
Donc ça veut dire qu'on est obligé de taper très fort quand on pense 125 000 bébés que vous allez récupérer. On est obligé de démarrer très très fort pour espérer effectivement un chiffre final raisonnable, très raisonnable.
C'est ça, malheureusement.
Alors concrètement ensuite, une fois que ces bébés grossissent, le mois d'octobre, au moment de la récolte, alors comment on fait le ramassage?
Donc tout est manuel, hein, il n'existe aucun outil mécanique. Donc c'est mes petites mains qui vont retirer les planches une par une des parcs et je fais ma sélection à l'œil, voilà, avec des critères que je me définis. Tous les escargots en dessous de 2 cm, grosso modo, vont rester en hivernation pour retourner sur l'engraissement l'année d'après.
Alors on les enlève de la petite planche et on les met...
En fait, ils sont mis dans des filets de 4 kilos, donc environ 300 escargots. Et donc ensuite, ils sont stockés dans des cagettes à l'abri du froid et de la pluie.
Parce qu'ils ne sont pas traités pour la transformation immédiatement ?
Dans tous les cas, il faut qu'il y ait une période de jeûne. Donc pendant une semaine, l'escargot ne sera ni alimenté ni abreuvé. Et donc de lui-même, il va se mettre en hivernation. Il va faire une petite pellicule pour fermer la coquille, qu'on appelle l'opercule. Et à ce moment-là, seulement, on pourra les tuer.
On l'a dit tout à l'heure, hein, ici, c'est du 100% bio. C'est quoi la différence entre un escargot bio, comme vous allez les récupérer, vous, et l'escargot traditionnel qui ne l'est pas ?
Donc, sur l'élevage, on va avoir un cahier des charges à respecter. C'est, par exemple, un nombre d'escargots au mètre carré maximum à ne pas dépasser.
C'est comme pour les poules, il lui faut un petit peu de confort.
Voilà, exactement. C'est un élevage qui est fait exclusivement en plein air, dans de la végétation. Et évidemment, aucun traitement chimique qui va être employé dans ces parcs. C'est une alimentation pour l'escargot qui est elle aussi issue de culture bio. Et après, ça va être dans mes recettes où je vais utiliser que des matières premières issues de l'agriculture biologique.
Et on va voir justement dans notre prochain rendez-vous ce qu'il advient de ces escargots sur les étapes de transformation. On reste des grands gourmands en Limousin et donc pour vous, ça c'est plutôt bon signe.
Oui, très bien, ça me va bien. Restez comme ça.
Et c'est notre quatrième avant-dernier rendez-vous dans l'univers de l'héliciculture. Nous sommes toujours, je le rappelle, installés à Bersac-sur-Rivalier. Nous sommes aux escargots de Jade avec Jade Oliveira da Silva qui est hélicicultrice et on va donc continuer d'évoquer le cheminement puisqu'on était en extérieur depuis le début de la semaine. Et là, vous l'entendez peut-être, ça résonne un peu puisque nous sommes rentrés nous mettre à l'abri au vu de la météo du jour et surtout pour parler du programme qui attend les malheureux escargots, mais pour notre plaisir nous. C'est évidemment la phase de transformation. Ils vont finir dans ce local qui est quoi ? Qui est le laboratoire ?
Oui, c'est ça, un laboratoire de transformation.
Alors, qu'est-ce que l'on va faire avec ces escargots qui arrivent donc là, vivants ?
Donc, ils arrivent vivants, endormis, hein, c'est important. Ils vont être donc tués les uns après les autres. Donc là, c'est la phase d'abattage. C'est pas un mot très très gai et c'est pas une période non plus très gai pour moi.
C'est-à-dire que oui, ça paraît tout bête. On se dit bon, ça tâche pas à des escargots et si, finalement, s'il y a quand même un lien quelque part qui se crée.
Oui, il y a un lien et puis c'est aussi une saison qui se termine. Donc ça veut dire après que pendant plusieurs mois, je n'ai plus d'animaux vivants sur la ferme. Donc c'est vraiment une page qu'on tourne. Donc c'est toujours un petit pincement au cœur quand même. Même si, bon, je me dis pas, tiens, Marguerite, ça y est, je te coupe les cornes, non.
200 000 prénoms, ça aurait été trop compliqué à trouver.
Trop compliqué.
Donc, ils arrivent là, et un par un, donc, ils vont être tués.
Ils sont dans des filets, comme on l'a dit, par environ 300 spécimens. Donc, je les tue en les plongeant dans l'eau bouillante, et puis ensuite, je vais les sortir un par un de la coquille pour les nettoyer. Donc, c'est-à-dire, j'enlève tout le système digestif qui est très fort en goût, et puis qui pourrait être impur à la consommation. Ensuite, je blanchis les chairs et puis je congèle tout mon stock pour l'année. Donc le muscle de l'escargot va être au congélateur.
Ça veut dire qu'on les congèle sans la coquille ?
Exactement, pour que ça prenne moins de place aussi et puis pour que ça soit plus propre. Donc après, toute l'année, au fur et à mesure de mes besoins, de mes ventes estimées, je vais ressortir mes paquets de chairs pour les cuire réellement dans un court bouillon. Et là, ensuite, eh ben, je remets les petites bêtes dans leur coquille. Un petit jeu de patience. Et puis, je les farcis suivant les recettes que je fais.
Alors, ça veut dire que là, à côté de nous, il y a un carton avec les coquilles. C'est les coquilles qui attendent les escargots qui feront leur retour en fonction de la demande.
Voilà, exactement. Donc, les coquilles ont été nettoyées au préalable, sélectionnées, les plus belles. Et puis, voilà, on va remettre les petites bêtes dedans.
Alors, autour de nous, concrètement, on a pas mal d'appareils. Alors, on reconnaît les congélateurs, sûrement, dans lesquels sont stockés les escargots. Il y a un congélateur, on va dire, un peu plus particulier au milieu.
Oui, donc ça, c'est une cellule de refroidissement rapide. C'est une obligation. On doit descendre notre produit après transformation très, très rapidement en température pour éviter le développement des bactéries. Donc, tout ça est contrôlé et surveillé. Et on essaie de le faire dans les règles de l'art.
Donc, ça veut dire que sur un ramassage, par exemple, en règle générale, c'est quelque chose que vous traitez en combien de temps pour que tout le stock soit géré et se retrouve congelé, prêt ensuite à être transformé ou aller jusqu'au consommateur?
Ah ben la période d'abattage, ça se fait sur un mois et demi environ. Hein. C'est ce que j'ai mis l'an dernier et j'avais que la moitié d'escargots par rapport à cette année. Donc j'appréhende un peu le boulot de cette année.
Les vacances d'été, on oublie?
Ah oui, complètement. Là, oui, jusqu'à la fin d'année, on oublie.
Là, il y a une machine aussi, c'est la machine qui sert à mettre sous vide également les produits.
Voilà, oui. Donc moi, je mets mes produits en frais, hein, pas en surgelé, en frais. Et donc là encore, on a du matériel pour retirer l'oxygène du paquet, pour encore une fois stopper vraiment les bactéries. Et je vais me mettre à faire des conserves pour liquider un petit peu de stock.
Alors justement, les conserves, comment ça se passe? Ça se passe pas uniquement ici?
Non, oui, tout à fait. Donc je les confectionne dans mon laboratoire et puis ensuite je les emmène à Bourganeuf dans une conserverie qui va les passer à l'autoclave pour les stériliser. Donc ça, c'est vraiment du gros matériel, des équipements spécifiques, donc je le sous-traite à d'autres.
Et en même temps, ça reste en Limousin, donc on est quand même à la maison.
Tout à fait, oui, on fait travailler les collègues.
Voilà, donc pas de souci. Alors, quelles sont les différentes transformations que l'on va pouvoir faire avec ces escargots? Il y a l'escargot, on le sait, hein, qu'on va retrouver dans sa coquille, qu'on va pouvoir manger, passer au four comme ça avec la recette beurre persil peut-être.
C'est ça, la traditionnelle, mais je crois que c'est celle qu'on aime en majorité. Hein. Quand on parle escargot, on pense au beurre persillé, à sa bonne odeur d'ail.
Voilà. Mais il n'y a pas que ça, on fait beaucoup, beaucoup de choses avec l'escargot.
Bah, y a vraiment beaucoup de choses en tout cas à faire autour de l'escargot, parce que son goût est quand même assez neutre, donc on peut l'accommoder de plein de façons. Donc je fais effectivement dans la coquille, je vais aussi présenter l'escargot dans une petite pâte qu'on appelle la croquille, et là du coup vous avez le plaisir à tout manger, et rien laisser dans l'assiette. Et puis ensuite, j'ai une gamme de conserves avec des tapas d'escargots. Donc là, c'est plus des choses pour l'apéritif ou pour les entrées. Donc des escargots marinés dans l'huile d'olive, l'ail, des tomates séchées, ou bien dans une sauce tomate, un pâté d'escargot, enfin voilà, des petites choses à grignoter.
Et puis en parlant de ces bons produits-là, effectivement, il y a l'escargot en lui-même, mais il y a ce que vous allez rajouter à l'intérieur, c'est que des bons produits, vous me rassurez?
Oui, bien sûr. Donc là, j'essaye d'être rigoureuse dans mes choix de matières premières, donc le persil est cultivé sur la ferme, l'ail et l'échalote, donc issu de l'agriculture biologique, va être acheté à des collègues sur les marchés. Voilà, le beurre est aussi acheté en local, malheureusement pas produit dans le Limousin parce qu'on n'est pas une région très laitière.
On pourrait faire du lait de chèvre, j'ai croisé quelques chèvres lors de notre précédent épisode.
C'est vrai, oui, c'est bon, un goût un peu plus fort, pourquoi pas, à tester. Oui,
voilà, c'est une lance une idée de recette, je prendrai 5% sur les ventes évidemment. Donc ça veut dire qu'on essaye au maximum d'être dans le local, d'être dans les bons produits, parce qu'aujourd'hui c'est ce que demande aussi le consommateur.
Voilà, ouais, tout à fait. Donc des produits frais, vraiment de toujours savoir d'où ils viennent, avoir une idée de la traçabilité des produits, quoi.
Bon, ces escargots, on les a connus, encore vivants. Nous les avons vus transformés ici. On va voir maintenant qu'ils finissent en boutique. Et puis, on va voir aussi qu'au-delà de la vente, vous êtes là pour faire découvrir tout cet univers de l'héliciculture. C'est ce qu'on évoquera ensemble dans notre tout dernier rendez-vous. Et notre tout dernier rendez-vous que nous avons partagé toute cette semaine au sein des escargots de Jade à la découverte de l'héliciculture à Bersac-sur-Évalier. Nous sommes toujours avec notre guide, Jade Oliveira da Silva. On a parlé hier de la transformation dans l'atelier qui est juste à côté de nous, mais là on a franchi une porte. On est au bout de la chaîne avec face à nous ces produits, ces conserves qui sont dans la petite boutique que vous proposez pour arriver sur la partie découverte découverte gustative de ce produit.
Oui, c'était une envie aussi de m'amuser un peu dans la cuisine. J'aime beaucoup l'escargot avec son beurre persillé, ça j'adore, mais à faire tous les jours, on a envie un peu d'autre chose aussi, donc j'ai essayé de trouver d'autres recettes un peu plus originales, et puis pour peut-être aussi donner envie aux gens de le manger pendant l'été, d'avoir des choses plus légères, plus estivales.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de se dire on mange l'escargot quasiment que dans les fêtes de fin d'année. Pour vous, c'est de dire c'est un petit peu dommage.
C'est vraiment dommage. Non, il faut manger de l'escargot toute l'année, bien sûr.
Alors ça veut dire, on disait plus léger, ça veut dire là on a face à nous de quoi faire des tapas, je vois. Ça veut dire que sur une tartine de pain, c'est plus léger, plus digeste qu'une terrine de pâté, par exemple, traditionnelle.
Enfin, l'escargot est une viande qui a en elle-même de très bonnes protéines et très peu de gras. Après, c'est ce qu'on va lui rajouter qui est lourd et gras. Donc là, par exemple, j'ai une recette à la sauce tomate qui ne contient aucune graisse. Donc ce sont des petits escargots marinés dans la sauce tomate avec de l'origan. J'en ai une autre dans l'huile d'olive, où là, si on fait une parenthèse sur l'huile d'olive, qui est une très bonne graisse, hein. Sinon, c'est très léger.
Il en faut, de toute façon. Il faut un petit peu de matière grasse.
Bon, une petite exception quand même pour le pseudo pâté d'escargot, qui lui va être en fait l'escargot, le beurre, l'ail, le persil, mais sous une forme mixée, sous une forme de pâté. Bon, là, on retrouve le beurre, mais c'est bon aussi, le beurre.
Il faut savoir se faire plaisir aussi avec des bons produits. Donc ça, ce sont les trois types de conserves que vous proposez ici. Il y a aussi d'autres déclinaisons.
Oui, il m'arrive aussi de faire, par exemple, des muffins d'escargot.
L'escargot en dessert, ça fonctionne aussi ?
Non, là, non, c'est en salé, c'est en entrée. Mais je pense qu'en sucré et salé, ça peut très bien marcher. Hein. J'ai un collègue dans le nord de la France qui fait des brochettes d'escargot avec de l'ananas et de la mangue. Et oui, pourquoi pas, enfin, ça me fait presque envie, quoi.
Oui, faut se laisser, pourquoi, faut tester, quoi.
Faut tester. Ouais. Ouais, non, il faut pas être réticent, il y a plein de choses à faire. J'ai un restaurateur qui en propose avec une crème de châtaigne. Ouais, ça paraît délicieux.
Ça veut dire qu'en tant qu'hélicicultrice, on a encore plein de choses à découvrir et à tester.
Ah oui, là vraiment sur la cuisine, le potentiel est énorme et c'est ça qui est très intéressant.
Le tout, c'est quoi, c'est le temps qui manque pour peut-être se lancer dans cette phase là
Vous avez tout compris. De réaliser une nouvelle recette, ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut la tester, il faut la faire tester, il faut trouver les matières premières à proximité, à des prix corrects, voir son évolution. Une conserve, elle a ce goût-là aujourd'hui, dans un an, elle aura peut-être un autre goût, donc ça, il faut l'anticiper. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Et en tant qu'hélicicultrice, on consomme de l'escargot ou on en a assez vu et on préfère manger autre chose?
On essaye de se restreindre, pas trop en manger. J'ai un petit garçon qui a 2 ans et qui est fan d'escargots, donc c'est lui qui parfois, maman, des escargots ce soir. Moi j'essaye de faire attention parce que c'est aussi mon boulot et je vais essayer de pas trop manger le stock non plus, quoi. Mais non, j'adore toujours autant l'escargot comme au premier jour.
Ici on est donc dans la boutique qui est installée à Bersac, mais je suppose que vous emmenez vos produits également sur les marchés.
Oui, je fais les marchés à la souterraine le samedi matin. Et puis après, ça va être des foires occasionnelles tout au long de l'année, foires événementielles, type fête à la châtaigne, fête du jardin, des choses comme ça. Donc je peux être sur Limoges, sur Rambazac. J'organise aussi des visites tout au long de l'été pour faire découvrir l'élevage. Et les gens sont curieux et souvent vraiment émerveillés, j'ai envie de dire, de voir comment ça s'élève, comment ça se cuisine. Toutes ces différentes étapes là qu'on a pu un peu résumer tout au long de la semaine.
Il y a des visites nocturnes, puisqu'on parlait des visites, c'est une spécificité que vous proposez aussi?
Alors c'est une nouveauté cette année, parce que je me suis rendu compte que les gens étaient un petit peu déçus de ne pas voir évoluer les escargots dans les parcs d'élevage. Donc du coup cette année, je propose des visites en semi-nocturne pour pouvoir un peu les voir évoluer dans leur environnement.
Ah, et c'est vrai qu'on dit que ça évolue très lentement, c'est une réalité ou ça va quand même beaucoup plus vite que l'imaginaire peut nous le raconter?
Eh bien, l'escargot, donc le gros gris, va faire 7 mètres à l'heure.
Voilà. Donc je pense qu'on a l'impression que ça va beaucoup moins vite que ça.
Oui, hein, quand même. Bon, c'est le problème, souvent il fait des zigzags, donc c'est 7 mètres en zigzag, donc au final, il a fait 2 mètres en une heure.
Suivez la traînée, vous vous rendrez compte qu'il y a eu un peu de chemin parcouru.
Oui, c'est ça.
Si on veut vous contacter, il y a un numéro de téléphone, c'est le plus simple?
Oui, tout à fait, donc le 06 09 16 22 87.
Pour terminer, le mot de la fin sur votre relation avec ces escargots, le mot qui résumerait bien tout ça?
Mais c'est plutôt paisible comme métier.
C'est reposant.
C'est reposant, oui, de les regarder en tout cas.